La nature, les arbres, les fleurs, la terre, les richesses de la terre, la main verte avec Alain Baraton. Bonjour Alain.
Toujours un grand bonheur de vous retrouver. Bonjour Pierre, bonjour Patricia, bonjour à tous.
Bonheur partagé. Alain, il ne faut pas confondre la fleur de la passion avec le fruit de la passion.
Eh oui, la nuance est subtile et mérite explication. La fleur de la passion est une liane d'origine sud-américaine et elle a été introduite en Europe au XVIe siècle. Cette plante s'est si bien adaptée à certains climats comme celui de l'Espagne, d'Hawaï ou de Nouvelle-Zélande qu'elle est considérée dans ces pays comme envahissante. La fleur de la passion est aussi appelée passiflore bleue, Passiflora caerulea pour les puristes, et elle est très appréciée pour sa jolie floraison.
À quoi ressemble-t-elle, Alain ?
Alors, les fleurs blanches et bleues sont de dimension moyenne, 8 à 10 cm, et elles embaument délicieusement. La disposition des étamines et des tépales ont intrigué les botanistes qui ont trouvé des ressemblances avec la passion du Christ.
Vous avez dit tépales ?
Vous avez bien entendu.
Ah bon ?
Il existe des pétales.
Et des tépales.
Oui, des sépales et des tépales. Les pétales sont des pièces florales colorées dont l'ensemble constitue la corolle. Les sépales sont généralement verts et entourent le bouton floral. Détail, il existe des sépales pétaloïdes, exemple la tulipe. Enfin, il existe des tépales, qui sont aussi des pièces florales et qui ne sont, j'ai regardé le dictionnaire, ni des sépales, ni des pétales.
Alors revenons à cette fleur, Alain, quel point commun avec la religion ?
Pour les Espagnols qui sont les premiers à décrire la passiflore, le cœur de la fleur, une couronne de filaments, ressemblerait à la couronne du Christ et les 5 étamines correspondant correspondent aux 5 blessures infligées au Messie. Toutes les autres parties de la fleur sont source de comparaison, d'où le nom passiflore, la fleur de la passion.
Donc une fleur qui se transforme en fruit.
En fruit de la passion, mais pas celui que vous consommez. Le fruit de la passiflore bleue est orange, très décoratif mais son goût est médiocre. Le vrai fruit de la passion est bien produit par la passiflore, mais une autre variété, la grenadille, appelée par les puristes Passiflora edulis.
Mon cher Alain, des questions pour vous sur le site de l'émission Mélanie. Elle nous écrit « L'extrémité de mon jardin est très souvent sous l'eau et rien n'y pousse. Avez-vous une suggestion ?»
Oui, alors si je vous dis lichnis floscoculi, pardonnez-moi, oui. Ça ne va pas vous parler.
Qu'est-ce qui vous arrive ?
Mais si je vous parle d'œillets, d'œillets des prés, c'est peut-être autre chose.
Oui.
Ce sont des plantes, les œillets des prés, qui sont très belles. Ce sont des vivaces que l'on peut même mettre dans les bassins. Elles sont roses le plus souvent, feuillage très découpé. En un mot, ce sont de bien jolies plantes qui aiment bien avoir les pieds dans l'eau une grande partie de l'année. Et donc, les œillets des prés correspondent parfaitement au terrain de notre ami qui est inondé une grande partie du temps. Oui, il est possible donc de mettre dans cette partie du jardin, des plantes avec des fleurs.
Et les nénuphars ?
Non, parce que là on parle de terrain inondé une partie de l'année, mais pas en permanence. Le nénuphar est une plante aquatique, là il faut une plante qui soit capable de vivre en permanence dans l'eau, et là le choix est beaucoup plus limité.
Monique, elle écrit « Jusqu'à quand puis-je laisser mes radis noirs en terre, et puis-je encore semer de la mâche ?»
Alors, on peut encore semer de la mâche, mais bon, ça devient quand même un peu limite. Généralement, on nous dit jusqu'à fin octobre, mais avec le réchauffement climatique, allons-y, disons, fin novembre. Pour ce qui est maintenant des radis noirs, il faut les récolter. Tous ces légumes racines qui ont atteint leur maturité dans la terre et qui ne sont pas cueillis rapidement risquent d'être la convoitise de quantités de rongeurs, d'animaux, des intempéries, etc. Donc il faut vraiment maintenant les retirer du sol.
Question de Charlotte, les hôtels à insectes sont-ils vraiment utiles en ville ?
Ah, aux yeux, oui. C'est mignon un hôtel à insectes, on en met partout, alors on les voit. Mais très honnêtement, essayer de faire cohabiter une petite avec une coccinelle, c'est pas simple. Franchement, mais très honnêtement, je n'ai pas vu une seule fois, je dis bien une seule fois en France ou partout où je vais, un seul hôtel à insectes digne de ce nom. Alors si un auditeur se dit que son hôtel à lui, dans son jardin, fonctionnellement, il fait une photo, il l'envoie, mais je ne crois pas. Mais c'est amusant, c'est joli, ça amuse les enfants, pourquoi ne pas en mettre ? Mais je ne crois pas du tout en leur utilité.
Philippe, je suis tenté de laisser les feuilles sur ma pelouse pour donner à l'herbe un engrais naturel. Est-ce une bonne idée ?
Non, parce qu'on ne donne pas de l'engrais à l'herbe, mais à la terre. Et là, en laissant les feuilles, on empêche l'eau d'être évaporée naturellement par l'environnement.
Oui.
Moralité, la pelouse va devenir humide, va favoriser l'installation des champignons et mousses, et c'est au contraire un mauvais service qu'on rendra au gazon. On retire les feuilles mortes, on les laisse, on profite un petit peu, c'est joli un tapis de feuilles mortes, mais on ne tarde pas trop, on les évacue et on ne laisse certainement pas un tapis de feuilles mortes tout l'hiver pour engraisser sa pelouse, c'est une bien mauvaise idée.
Est-ce le bon moment pour tailler les rosiers ? Question d'Isabelle.
Alors, on peut commencer à l'été, mais de manière très simple, on se contentera simplement de leur donner une dimension agréable pour qu'ils puissent passer l'hiver de manière esthétique et uniquement esthétique.
Mon cher Alain Baraton, des conseils de lecture. Un conseil de lecture ?
Le conseil de lecture.
Pardon,
livre-événement, le potager d'un frimeur. Toi aussi, deviens une star grâce aux légumes. C'est Xavier Mathias. Xavier Mathias, on le connaît bien à Inter. C'est quelqu'un qui est un passionné, un maraîcher qui s'y connaît mieux que personne. Il a fait un ouvrage qui n'est pas seulement intéressant, qui est passionnant et qui en plus c'est drôle, c'est très drôle du début à la fin. On apprend quantité de choses. Si je vous dis qu'en plus, cet ouvrage a été préfacé par François-Régis Gaudry, vous avez compris que l'association Gaudry-Mathias,
effectivement,
c'est du caviar. C'est un livre drôle, instructif, c'est merveilleux, c'est un cadeau à faire ou à se faire. Le potager d'un frimeur, Xavier Mathias, est publié chez Terre Vivante. 25 €, faut le commander. On l'a mis sur la page du site internet. C'est le coup de cœur. Je rembourse ceux qui ne seraient pas contents de l'avoir acheté.
Le potager d'un frimeur.
Oui, le potager d'un frimeur. Et oui, il explique qu'on peut frimer avec une Rolex ou une Ferrari, mais rien ne remplace un potager pour devenir un homme.
Alain Baraton, la main verte, et bien sûr, rendez-vous demain matin vers 8h moins le quart.
J'y serai, à demain.
Merci Alain.